Bonsoir. Le président de la République a tenu vendredi dernier une conférence de presse au cours de laquelle il s'est exprimé sur plusieurs points. S'agissant des élections, Joseph Kabila a confirmé qu'elles auront lieu cette année comme prévu par la CENI. Toutefois, il ne s'est pas prononcé sur sa candidature éventuelle pour un troisième mandat. Quelle analyse faire des propos du chef de l'État? C'est la question de l'émission et nous en parlons avec John Banzalunda. Il est secrétaire général de l'UNAFEC, parti politique de la majorité présidentielle. Bonsoir, monsieur John Banzalunda.
Bonsoir.
Professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Bonsoir, professeur Jeff Mudimbi.
Bonsoir.
Et lui va nous rejoindre, c'est Delice Sanga, il est député national de l'opposition et président du parti politique En Vol. Il est aussi président de la plateforme Alternance pour la République et membre du comité des sages du Rassemblement. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le président de la République, Joseph Kabila, a passé en revue sa gestion de la RDC durant 17 ans lors d'une conférence de presse vendredi dernier au Palais de la Nation à Kinshasa. Durant près de 2 heures, il a peint un tableau plus reluisant tant dans les domaines politiques, sécuritaires, économiques et diplomatiques. Son principal engagement en ces moments reste la tenue de bonnes élections selon le calendrier publié par la CENI et l'éradication de tous les groupes armés avec comme objectif final mettre fin à l'insécurité principalement dans les deux Kivus. Billy Van Lutumba revient dans cet élément sur l'échange du président Kabila avec les médias.
Devant un parterre des journalistes nationaux et internationaux, le président Joseph Kabila Kabange regrette qu'avec son équipe, ils n'ont pas réussi durant 17 ans à transformer l'homme congolais. Toutefois, il se donne la meilleure cote en matière d'organisation des élections du fait qu'il amène une fois de plus le pays à organiser des élections et le troisième cycle électoral déjà. Cependant, reconnaît-il, l'organisation de celle-ci demeure une mer à boire sur le plan budgétaire pour l'État congolais.
Je le dis assez souvent, les élections dans ce pays commencent à nous coûter beaucoup plus cher que même le développement du pays. À un certain moment, on sera obligé de lever l'option. Est-ce que c'est le développement du camp ? Sinon, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Cela veut dire qu'il faudra, le moment venu, lever des options et des décisions courageuses pour ne plus tomber ou retomber dans la situation qu'on a aujourd'hui.
S'il existe des contacts avec des pays voisins pour des solutions concertées concernant les réfugiés et la sécurisation des frontières, ce n'est pas le cas avec certains autres partenaires devant qui la RDC se doit de se faire respecter nonobstant leur aide. Joseph Kabila n'a pas non plus fait la part belle des relations entre la RDC et la MONUSCO.
On doit clarifier dans les jours à venir nos relations avec la MONUSCO. Il y a une incompréhension. Si l'ambition, c'est de considérer le Congo comme sous tutelle des Nations Unies, ils ne l'ont pas dit, du moins jusque-là, et j'espère bien que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une cogestion de l'État congolais par la MONUSCO, que c'est ça l'attendant.
Quant à la sécurité dans le pays, le président de la RDC rassure de gagner cette fois la paix dans les provinces où des groupes armés demeurent encore actifs avec cette traque que mènent depuis bientôt une semaine les FRDC.
Toutes ces affirmations du chef de l'État ont suscité diverses réactions dans la classe politique et diplomatique que nous résume ici une fois de plus Billy Ivan Lutumba.
Disons tout de suite que la MONUSCO s'est réservée de commenter ce point de presse. Toutefois, elle rappelle son mandat. Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO.
Nous sommes présents ici en République démocratique du Congo, en application des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, non pour nous substituer aux autorités, mais pour les renforcer dans l'exercice de leurs responsabilités vis-à-vis du peuple congolais.
Pour Claudel Lubaya, président de l'Union démocratique africaine originelle UDEA, le chef de l'État n'a donné aucune réponse à certaines évidences et pas même de compassion pour les morts enregistrés récemment au pays.
Le président de la République a voulu ignorer toutes ces tueries perpétrées pour nous donner l'impression qu'en fait il est propriétaire de la République démocratique du Congo. Et en tant que propriétaire, il détient la constitution, il peut en faire tout usage. Qu'il la respecte, qu'il la respecte pas, c'est son affaire, personne n'a rien à lui dire.
Du moins reconnaît Thomas Lokondo, président de l'Union congolaise pour la liberté, qui lui apaise. Juridiquement, Joseph Kabila ne briguera pas un troisième mandat.
Le président de la République affirme que les élections seront irrévocablement organisées le 23 décembre et qu'il n'y aura pas d'autre glissement. C'est clair, ça l'assure, mais il faudrait que ces élections soient organisées de façon apaisé. Pour ce qui concerne la polémique avec l'Église catholique, chacun joue son rôle pour le bien-être de la population.
À l'UNC de Vital Caméré, dans un point de presse tenu samedi, le président de ce parti a lui parlé des 10 contre-vérités de Joseph Kabila, comme ce qu'il démontre ici concernant l'économie.
Quand on parle des taux de croissance, ça accompagne avec l'accroissement d'emplois, l'accroissement des conforts de vie, du bien-être. S'il y a eu réellement croissance, il y a eu détournement du fruit de cette croissance par une poignée d'individus, ces individus qui vivent dans un autre monde qui est le monde miséreux dans lequel nous nous trouvons, l'ensemble du peuple congolais.
Apaisement du côté du palou d'Antoine Gizenga qui salue du moins l'initiative du président de la République. Lougui Gizenga, secrétaire permanent.
Beaucoup de thèses qu'il a évoquées, nous en parlons aussi souvent, ce qui est en concordance des vues, mais c'est un exercice important. En ce moment où le peuple se pose les questions, où allons-nous? Est-ce que nous allons aller aux élections ou pas?
Concluant son point de presse, le président de la République a fixé rendez-vous à la presse dans un ou deux mois pour une autre évaluation du processus électoral et de la situation dans le pays.
Merci à vous, Billy Ivan Lutumba. Délice Sanga, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai précisé ici que vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique Envol. Vous êtes également président de la plateforme Alternance pour la République et membre du comité des sages du Rassemblement. Le chef de l'État s'est confié à la presse vendredi dernier, dressant pratiquement les bilans de ses 17 ans au pouvoir. Quelle appréciation vous faites de cette interview du chef de l'État, Joseph Kabila?
Écoutez, nous avons constaté d'abord que dans ses propos, le président de la République n'a pas été à la hauteur de charge de son devoir de garant la Constitution, qu'il n'a pas véritablement apprécié la profondeur, la gravité de la crise qu'il a provoquée dans ce pays et le rejet que le peuple congolais dans son ensemble exprime à l'endroit de toute tentative de restauration d'une dictature en République démocratique du Congo. Et sur l'ensemble des questions, j'espère que nous allons y revenir, nous pouvons démontrer noir sur blanc qu'effectivement, le président de la République a été à côté de problèmes essentiels qui touchent les Congolais et s'est même offert le luxe de soulever des questions qui ne sont pas de vrais sujets par démagogie et qui sont complètement désorientants pour l'opinion publique nationale.
Et justement, la première question était celle relative à son éventuelle candidature aux prochaines élections. Et à cette question, Joseph Kabila a demandé à la journaliste qui a posé la question, n'est-ce pas, de se référer à la constitution du pays. Honorable Edelice Sanga, est-ce une réponse claire ou la langue des bois?
Vous savez, la fin du mandat de Joseph Kabila, le fait qu'il ne puisse pas se représenter est une question d'abord personnelle, comme chef de l'État sortant. Mais c'est ensuite une question qui touche au fonctionnement de nos institutions. C'est quoi le rôle de l'État? Parce que tout part de là. Joseph Kabila a une conception très individualiste et personnelle de la fonction qu'il exerce et ne comprend pas qu'en tant que président de la République, il a le devoir, pas le choix, mais le devoir d'apaiser les tensions, de rassembler, d'assurer la cohésion et la cohérence au sein de la nation congolaise et de ne pas diviser. Et qu'en entretenant le flou sur cette question, il contribue à diviser et se comporte comme un militant d'un camp politique plutôt que président se situant au-dessus de la mêlée et qui doit rassurer la nation. C'est un choix individuel. Alors, il a fait un choix individuel de pouvoir diviser la nation, d'entretenir le fou et la confusion. Nous savons néanmoins, ce qui nous concerne, que ne pouvant rien attendre de lui, il ne peut être candidat à la prochaine élection. Et sachant aussi que nous nous sommes entendus pour qu'il n'y ait aucun référendum qui soit organisé pendant cette période préélectorale, nous n'attendons plus de lui qu'il puisse rassurer la nation qu'il n'a que trop divisé. La seule chose que nous attendons, c'est d'aller aux élections pour pouvoir opérer l'alternance qu'appelle notre peuple de ses voeux.
Voilà, vous dites qu'il entretient les flous et qu'il a les devoirs, n'est-ce pas, d'apaiser la tension au sujet de son avenir politique. Et honorable, politiquement, Joseph Kabila n'a-t-il pas raison lorsque, à cette question, il renvoie les gens dans la Constitution, politiquement?
Juridiquement, peut-être. Politiquement, non. Juridiquement, il peut dire que la question est réglée. Mais dans un contexte où, avec sa majorité, il y a eu des tentatives de pouvoir modifier la Constitution, de pouvoir entreprendre des initiatives de réforme qui aurait pu laisser croire qu'il veuille se présenter et s'éterniser au pouvoir, alors qu'il a échoué à assurer la régularité du cycle électoral. Nous avons eu des élections en 2006, en 2015, on les attendait pour 2016. Que nous avons eu ces débats, ces dialogues qui ont été organisés successivement à la cité de l'OUA et lors de la Saint-Sylvestre, il lui revenait à lui, dans sa fonction, de pouvoir rassurer et de ne pas se contenter de renvoyer à la Constitution. Mais c'est un choix individuel qui s'impose à lui et qui est la marque de son exercice de pouvoir. Nous considérons que dans une démocratie, lorsque la nation est divisée, il revient à ceux qui gouvernent de pouvoir rassurer, de pouvoir rassembler et donner les balises pour l'avenir. Mais vous savez, ça fait 17 ans que nous savons que nous n'aurons ni d'avenir ni de lumière avec la gouvernance Kabila.
Il n'était pas d'accord avec le journaliste qui a affirmé que l'accord de la Saint-Sylvestre était appliqué de façon sélective, comme pour dire honorable que cet accord est appliqué, n'est-ce pas, dans son intégralité. N'est-ce pas là une réponse que Joseph Kabila est en train de donner à vous de l'opposition qui avez toujours estimé que cet accord n'est pas appliqué, et aussi une réponse qu'il donne aux laïcs catholiques qui disent initier toutes ces marches pour exiger l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. N'est-ce pas une réponse que Kabila a donnée en disant que l'accord est appliqué dans son intégralité?
C'est moins une réponse qu'une provocation. Une provocation pourquoi? Ce que l'on appelle l'accord contient un certain nombre de dispositions, de stipulations qui ont été arrêtées. Je veux revenir, il y a les aspects institutionnels, nomination d'un Premier ministre, du CENSA, il les a appliqués comme il a voulu. Nous n'en faisons pas un problème, c'est pas un sujet pour nous.
C'est pas un sujet pour vous, c'est pas un sujet pour l'opposition.
C'est pas un sujet pour nous parce qu'il va pas tourner la nation en bourrique parce que les types vont courir derrière des postes. Donc, il a voulu appliquer ça de manière unilatérale avec l'interprétation qui est la sienne. Nous lui laissons cette responsabilité avec ceux qui ont voulu l'appliquer ainsi. Ensuite, l'accord contient un certain nombre d'interdits, pas de référendum, pas de troisième mandat et un délai. Et au surplus, pour obtenir les élections apaisées, il y a eu la décrispation. Et c'est là que je veux revenir. Sur la décrispation, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Pourquoi nous avons refusé d'abord de dialoguer avec Joseph Kabila au départ? Parce que nous posons des préalables. Les gens nous ont dit, les préalables que vous posez empêchent la nation d'évoluer et donc il faut aller au dialogue et discuter de ces préalables au niveau du dialogue. Nous en avons fait des matières au niveau du dialogue. Et lorsque nous nous sommes retrouvés au dialogue, on a formulé une série de propositions comme étant le chapitre de la décrispation politique. Et cette décrispation politique, à l'étape où nous sommes, n'est plus un préalable, mais c'est un prérequis pour aller aux élections. Parce que comment vous voulez penser que nous allions aux élections avec le dédoublement des partis politiques, avec l'empêchement des manifestations des opposants, avec l'impossibilité pour certains candidats de pouvoir être sur le territoire national. Et dans la décrispation, nous sommes même surpris de voir que Joseph Kabila ait pu s'interroger « Est-ce qu'il faut 10 000 personnes pour que la décrispation soit effective ?» Non. La décrispation, nous avons identifié ce que nous avons considéré comme étant des cas emblématiques. Il faut libérer ces cas emblématiques pour pouvoir donner le là, donner une indication précise et symbolique sur le fait que aujourd'hui nous sommes engagés pour des élections qui soient libres, démocratiques, apaisées et non pas des élections menées de manière dictatoriale et unilatérale par un camp contre le pays qui veut confisquer le pouvoir contre la volonté du peuple à pouvoir s'exprimer.
Merci John Banzalunda, secrétaire général de l'UNAFEC, parti politique de la majorité présidentielle. Comment avez-vous jugé cette interview du chef de l'État?
Nous étions très rassurés par la lecture qu'a faite le président de la République sur la situation qui prévaut dans notre pays. Et le message le plus important qu'il a délivré à la nation et à l'ensemble de la communauté internationale, c'est que le pouvoir appartient au peuple congolais. Le pouvoir appartenant au peuple congolais, il revient à ce dernier de déterminer son destin. Et le seul mot le plus important qu'il a souligné, c'était élection. Élection. Vous avez suivi avec moi tout l'argumentaire de l'honorable Sesanga, il a parlé de tout sauf élection. Donc, dans leur schéma, ils sont ailleurs que vers les élections. Et pour revenir à ce qu'il a qualifié de processus biaisé, il a donné une litanie de charges contre la majorité présidentielle. Et je n'arrive pas à comprendre ce qu'on veut. Il y a quelques années, ils ont marché, ils ont appelé la population à marcher pour réclamer les élections. Et lorsque nous sommes allés dialoguer avec eux pour rassurer l'ensemble de la nation, aller vers les élections, ils ont opposé à cette démarche une autre démarche, la démarche d'un raccourci. Et le raccourci, c'est ce qu'ils sont en train d'appliquer maintenant, c'est qu'ils avaient qualifié de plan B.
Monsieur vous Mbaza, avez posé une Mbaza, question. Vous pensez que au sujet des élections, parce que vous avez relevé cette question, vous pensez que au sujet de cette question, le chef de l'État a rassuré l'opinion. Lorsque lui-même il se pose la question de savoir pourquoi on doit dépenser autant d'argent, n'est-ce pas, pour organiser des élections, et il estime que à un moment donné, il faudrait lever des options. Et vous pensez que en tenant un tel discours, il a rassuré l'opinion par rapport aux élections.
Le premier aspect de cette assurance, c'est le fait que le calendrier qui a été dévoilé par la CENI et qui requiert toute l'adhésion de la population et de la communauté internationale sera respecté. Première chose, les élections auront bel et bien lieu en 2018. Cela étant, il ne faudrait pas empêcher aux gens de réfléchir sur la nécessité impérieuse d'amener ce pays vers le développement. Et donc, il faut voir dans quelle mesure les élections doivent contribuer au développement. C'est ça le schéma. Les élections sont un levier pour le développement et pas un raccourci que l'honorable Sesanga et ses partenaires dans lesquels ils veulent nous amener. Deuxièmement, il a dit que le chef de l'État n'était pas à la hauteur de sa charge lorsqu'il a énuméré un certain nombre d'éléments. Mais j'aimerais dire à l'honorable, peut-être il n'a pas suivi.
Il dit qu'il n'a pas réalisé la gravité de la crise dans laquelle il a
Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'il est parti de la source. La source, c'est les débuts de sa prise des fonctions. Et il a souligné noir sur blanc qu'il ne s'agissait pas d'abord d'un bilan. Il ne s'agissait pas d'un point de presse ordinaire, il s'agissait d'une lecture d'un Congolais, d'un citoyen congolais, ou mieux, du premier d'entre nous. La politique, le pouvoir politique, l'une des spécificités du pouvoir politique, il est créateur d'ordre. Et l'ordre amène vers le développement. Mais qu'est-ce qu'on constate ici? La source ne doit venir que du peuple congolais. Et ce que les amis de l'honorable Sesanga sont en train de faire et le schéma dans lequel ils nous amènent, c'est un raccourci qu'on ne peut pas accepter. Ils parlent de tout sauf des élections. Voici ce qu'ils nous proposent aujourd'hui. Un membre important de leur mouvement passe au lendemain de l'assurance du président d'organiser ces élections en décembre 2018. Monsieur Fayoulou parle d'une transition et qu'on organise les élections en 2019. Et nous sommes dans quel monde, finalement? La majorité présidentielle...
Fayoulou est membre du Rassemblement.
Oui, ils sont ensemble.
L'honorable Élise Sesanga est aussi membre du Rassemblement.
Oui, ils sont ensemble.
Il va nous dire si cela est vrai.
Exactement. Exactement. Il a parlé de ça. Et donc, ils ne veulent pas des élections. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est qu'il y ait encore un autre dialogue. Mais un dialogue, pourquoi? Combien de dialogues faudra-t-il pour que le peuple s'exprime? Et aujourd'hui, voilà, nous sommes rassurés.
Nous venons d'apprendre que l'honorable Fayoulou a tweeté pour dire que la déclaration à laquelle vous faites allusion, elle est fausse.
La déclaration est bel et bien identifiée. Il ne faut pas faire de faux fouillants. Monsieur, il faut être responsable. Il faut être responsable.
Voilà, responsable dans le débat.
Et les actes.
Alors, parlant de son action, n'est-ce pas, de l'action de sa gouvernance pendant pendant 17 ans. Le chef de l'État a évoqué la croissance atteinte vers 2014-2015 et qui a frôlé deux chiffres. Mais il n'a pas dit ce qui a été réalisé avec toutes ces richesses, les richesses qui ont été créées, n'est-ce pas, lorsqu'on a atteint 9,5%. Et vous avez suivi même dans les reportages de Billy Ivan Lutumba et M. Vital Kamerhe qui estiment que toutes ces richesses ont été détournées par certaines personnalités.
En tout cas, M. Kamerhe n'est pas la référence de personnalités qui doivent donner des leçons aux dirigeants.
Pourquoi? Parce que
il n'a aucune crédibilité, ni dans son action, ni dans tout ce qu'il dit.
Ça n'engage que
donc,
vous. Hein?
Ça n'engage que moi, et c'est ce qui est vrai. Et donc, M. Kamerhe a raté encore une fois l'occasion de se taire. Et pour revenir à l'essentiel.
Alors, s'il faut parler, n'est-ce pas, des fruits de cette croissance, 9%, 8,5%, 9%, 9,5%, les fruits, les richesses qui ont été créées, ça a servi à quoi? Parce que sur le terrain, rien n'a été fait, apparemment.
Mais c'est votre conclusion est totalement biaisée parce que vous avez le point de départ en 2001 et aujourd'hui. Nous avons évolué et nous avons créé ces richesses. Il y a des entreprises qui ont été créées, mais on ne dit pas qu'on a résolu tous les problèmes. Et donc, il ne faudrait pas verser dans la propagande. Et c'est ça le danger. Les amis versent constamment dans la propagande en oubliant l'essentiel. Aujourd'hui, vous pouvez faire un bilan économique et vous verrez que nous avons suffisamment avancé, mais nous n'avons pas encore atteint les points de développement.
Monsieur John Banza, il y a des faits d'actualité que le chef de l'État n'a pas évoqué, alors que c'est des questions qui préoccupent l'opinion congolaise dans son ensemble. C'est par exemple la loi électorale qui a été adoptée, promulguée sur fond des contestations. Il y a les choléras, n'est-ce pas, qui déciment les populations congolaises à travers les pays. Il y a les inondations qui entraînent mort d'hommes. Il y a la grogne, n'est-ce pas, dans les universités à cause des frais académiques. Ça, c'est des questions sur lesquelles on l'attendait, mais il n'a pas évoqué. Et comment vous expliquez cela?
Le chef de l'État a fait une analyse sur un certain nombre de points importants. On ne dit pas que les autres le sont moins. Et donc, vous parlez par exemple de la loi électorale qui a été contestée par une partie des gens qui ont été radicalisés par les transfuges de la majorité et dont aujourd'hui qui sont aujourd'hui à la commande du mouvement du rassemblement et les principales bailleurs de l'honorable Sessanga et tous ses amis. Et donc ces gens qui se sont radicalisés on ne peut pas attendre mieux d'eux que tu une contestation systématique et permanente. Et donc la démocratie n'est pas un système d'un accord absolu.
Merci professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Votre analyse par rapport à cette interview du chef de l'État Joseph Kabila. Allô professeur Jeff Mudimbi. Apparemment, on l'a perdu. Je crois qu'on va essayer de les rappeler. Et honorable Délice Sessanga, il y a une question, une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Kinshasa.
C'est Blanchard Mongomba. Je interviens à partir de Kinshasa. Le chef de l'État, dire qu'il sera candidat à sa propre succession n'est pas à l'ordre du jour ou n'est pas une obligation puisqu'il peut ne pas les dire. Le principe est cristallisé dans la Constitution. Même si nous avions fait de la Constitution un chiffon, même si nous avions, quand je parle de nous, je vois plus les politiques et surtout la famille du chef de l'État, Joseph Kabila, qui a chiffonné cette Constitution, le principe était bel et bien cristallisé qu'il ne pourrait plus se représenter à un troisième mandat. Mais au-delà de ça, nous disons qu'il se pose encore de problèmes. Il faut nécessairement que la classe politique se réunisse, non pas pour essayer de trouver une fois de plus de superfice aux politiques, aux politiciens qui cherchent à avoir de moments comme ça pour se taper de poste, mais pour que nous puissions clarifier, nous puissions éclairer le peuple, puisque le peuple n'a fait que trop attendre. Le peuple doit cette fois-ci être rassuré qu'effectivement, au 23 décembre, il n'y aura plus un glissement qui va nous amener encore à voir le chef de l'État, Joseph Kabila, à la tête du pays.
Honorable Délice Sanga.
Faut-il répondre à cela? Je suis en parfait accord avec ce que dit cet auditeur. Je voudrais juste revenir sur un point. Nous ne sommes pas à la recherche d'un dialogue, comme mon contradicteur sur ce plateau le dit. Nous n'avons pas peur des élections. On dit que Kabila a parlé des élections. Non, il a parlé des élections tout de suite pour les réfuter, pour dire que la démocratie coûtait plus cher dans une représentation qui est totalement démagogique et qui est indécente. Lorsque le président de la République dit que 1,2 milliard de dollars par rapport au budget de 7 milliards, d'abord, c'est un mensonge d'État. L'élection se prépare sur 5 ans. S'ils ont eu des budgets de 5, 7 milliards par an, donc ils ont géré 35 milliards de dollars. Et un pays qui consacre 1,2 milliard sur 35 ou 40 ne consacre pas beaucoup à sa démocratie pour éviter les conflits de légitimité, c'est donner la stabilité qui peut apporter justement ce développement. De quoi parle-t-on lorsque l'on dit aujourd'hui il faut réfléchir sur le développement? En 17 ans, vous avez été incapable de développer le pays et lorsque vous êtes hors mandat, vous êtes même en train d'expédier les affaires courantes pratiquement. C'est là que l'on va se donner un plan pour développer le pays. Je pense pas que dans une démocratie ça se passe ainsi. Lorsque nous parlons de la croissance,
honorable au-delà des considérations politiques, parce que vous avez évoqué les élections.
Nous avons évoqué les élections.
Au-delà des considérations politiques, vous ne pensez pas que l'idée émise par le chef de l'État serait pertinente dans ce sens que le 1/7, n'est-ce pas, du budget est consacré aux élections?
Non, ce n'est pas le 1/7 du budget.
On ne peut pas à un moment donné essayer de se pencher sur cette question.
C'est démagogique. Quand on dit 1/5 du budget, c'est démagogique. Ils ont géré 35 milliards. Sur les 35 milliards ou les 40 milliards qu'ils ont gérés, on leur demande de consacrer 1 milliard 200 millions pour lesquels chaque année on donnait 250 millions, 300 millions par an pour les élections. Ils ont mal géré les crédits de l'État. Lisez les rapports de la Cour de compte. Si on veut aujourd'hui une alternance dans ce pays, c'est entre autres parce que la gestion des finances publiques est peu orthodoxe. Donc, Joseph
Kabila, pour vous, les élections ne coûtent
pas
cher dans ce pays?
Non.
Ça ne coûte pas cher.
Mais par rapport à ce que représente le coût d'une guerre, imaginez ce qui s'est passé au Kasaï. Aujourd'hui, toutes les agences des Nations Unies disent qu'il faut 1,6 milliard pour résoudre la crise du Kasaï. Pour les conséquences de la crise du Kasaï, c'est plus que le 1,2 milliard qu'on demande pour les élections. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'ils calculent les coûts de la paix et cette mauvaise gestion nous conduit souvent à dire qu'il faut absolument l'alternance. Donc, nous voulons les élections, mais qu'ils soient des élections apaisées où tout le monde participe. Je rappelle qu'en 2006, j'étais au MLC. À l'époque, Joseph Kabila avait une condition d'inéligibilité parce qu'il n'était pas retiré de l'armée. Et il y a eu des gens qui ont fait le procès, mais nous avons plaidé pour qu'ils participent parce que nous voulions des élections inclusives. Nous voulons cette fois-ci que les chapitres de la décrispation soient réalisés pour que tout le monde puisse participer, qu'ils ne choisissent pas les candidats qui doivent y aller et que l'accès aux médias soit libre et qu'ils nous laissent libres de nos mouvements à l'intérieur du pays. Personne n'a peur des élections là où la population veut simplement se débarrasser d'eux. Enfin, vous avez parlé de la croissance économique. Voilà un sujet d'importance. Vous voyez bien que mon collègue qui veut bien me reprendre sur ce plateau ne veut pas faire le bilan de Joseph Kabila parce que Kabila n'a pas un bilan qui soit positif et reluisant. Il va nous laisser un pays en insécurité avec une économie qui n'a pas atteint la croissance de deux chiffres. Pourquoi? Parce que leur croissance, vous les voyez excités aujourd'hui parce que les cours du cobalt, depuis deux ans maintenant, sont en train de prendre l'ascenseur. Et là encore, un système de pillage va se mettre en place et les fruits de cette croissance ne seront jamais inclusifs. Merci. Pour réduire la pauvreté. La pauvreté reste dans ce pays, touche encore 70% de nos concitoyens.
Merci.
Donc, le bilan économique et sociale de Joseph Kabila sur ses 17 ans aura été catastrophique.
La réalisation me signale que le prof Jeff Moudimbi est là. Bonsoir professeur Jeff Moudimbi.
Bonsoir monsieur Guy.
Oui, je rappelle que vous êtes professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Votre analyse par rapport à cette interview du président Joseph Kabila?
Ok, merci beaucoup pour la question que vous venez d'imposer. Ici, je voudrais tranquilliser peut-être le peuple congolais sur les inquiétudes concernant le troisième mandat du président de la République. Et je pense que au lieu de chercher à ce qu'il se prononce parce qu'il ne le fait pas, je pense que les dispositions constitutionnelles valent plus que la prononciation du président de la République à ce sujet. Nous le savons très bien que la Constitution congolaise, dans son article 70, dispose que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Alors j'insiste, une seule fois. Dans le texte de prestation de serment, tel que défini également par la Constitution en son article 74, il est dit ceci, le président de la République juge devant Dieu et devant la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Si je peux m'arrêter là. Et c'est la même Constitution qui dit qu'il est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Je pense qu'à ce niveau, la Constitution est très éloquente. Nous ne pouvons pas chercher à ce que le président de la République se prononce.
Oui,
ce qu'il faudrait, c'est que la Constitution doit s'appliquer.
Professeur.
Alors, permettez d'abord que je termine avec
professeur
cette
Diouf
idée.
Ndimbi.
Alors, si, par
professeur
exemple,
Diouf Ndimbi.
Il se présente pour une... Allô?
Oui, vous avez relevé, n'est-ce pas, cette disposition de la Constitution, et là, vous relevez l'aspect juridique de la question. Vous avez suivi l'honorable Delice Sanga, qui pense que, politiquement, le chef de l'État devait dire quelque chose pour, n'est-ce pas, rassurer l'opinion dans son ensemble.
Bon, il n'y a pas de problème, même s'il ne l'a pas dit, je crois que cela ne doit pas créer des inquiétudes. Voici, si par exemple, cette disposition est violée, mais n'oublions pas que la même Constitution, son article 164, dispose que la Cour constitutionnelle, c'est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison. Et il est dit quand est-ce qu'il y a cas de haute trahison. Il y a cas de haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution. Et nous pensons que s'il y a troisième mandat, de la part du président de la République, et si réellement notre justice est indépendante et se montre réellement indépendante, je pense qu'il y aura lieu que la justice fasse son travail à ce sujet-là. Alors, au sujet des élections, je voudrais ici dire que c'est vrai, même si le président a pu donner des assurances qu'en 2018, il y aura des élections. Mais cela crée un peu un doute. Parce que lorsque nous lisons très bien l'accord global, dans son chapitre 4, au point 4.4, il y a quand même certaines recommandations qui ont été faites au niveau du gouvernement. C'est notamment la mobilisation des ressources internes et externes nécessaires pour les budgets des élections. Mais là aussi, il y a des choses qui semblent un peu créer des doutes. Aujourd'hui, on est en train de parler du budget. Comme si c'est, les élections de 2016 étaient prévues en 2017. Il fallait déjà les prévoir depuis 2006, 2011, 2016. On devait déjà savoir qu'en 2016, il y aurait des élections. Mais curieusement, nous avons passé d'abord 2016 et puis on se réveille comme si c'était un problème ponctuel qui venait de se poser maintenant. J'avais déjà dit autrefois dans une de mes interventions, comment pouvez-vous comprendre que au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, on sait quand est-ce que l'année scolaire commence et au 2 juillet, tout doit s'arrêter. Alors, comment voulez-vous qu'au niveau du pays, on sait qu'il y a eu un cycle électoral en 2011 et qu'en 2016, il doit y avoir un autre. Alors, on se comporte comme si on avait tout le temps et c'est en 2016 que l'on arrive maintenant à commencer à dire « Non, voilà, écoutez, nous n'avons pas de moyens, il faut attendre, il faut faire ceci, il faut faire cela ». Qui plus est, il existe aussi des mesures de décrispation politique pour l'organisation des élections apaisées. Parmi ces élections, parmi ces mesures-là, il était prévu qu'une commission des hauts magistrats soit mise en place pour examiner les dossiers des prisonniers de politique, des prisonniers d'opinion, des exilés ainsi que des réfugiés politiques. Or, jusque-là, cette question demeure encore pendante. Mais pendant ce temps, on nous dit que nous irons aux élections. Donc, il y a lieu de poser la question. C'est vrai, nous pouvons aller aux élections. Mais quel type d'élection? Parce que le souhait, c'est que les élections doivent être apaisée. Les élections doivent être transparentes. Un autre point, c'est que le ministre ayant dans ses attributions les médias devait, dans les 15 jours qui suivaient la signature de cet accord, ouvrir le signal des entreprises audiovisuelles fermées ou interdites par des mesures conservatoires. Jusque aujourd'hui, il y a encore des chaînes de télévision, des chaînes de radio ou bref des entreprises audiovisuelles qui continuent encore à être fermées. Et enfin, il y a eu cette question-là de dédoublement des partis politiques. Cette question n'est pas encore résolue. Alors, c'est au regard de tous ces préalables-là, il y a quand même un doute que nous devons développer ici pour dire c'est vrai, même s'il y a l'élection, mais quel type d'élection?
Merci, professeur.
Je pense que le souhait, c'est d'arriver vraiment à l'organisation des élections, mais il faudrait que l'on prenne quand même soin de résoudre ces préalables de manière à rassurer la population et même les acteurs politiques
Merci
en présence.
Professeur. Merci, John Banza. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Bukavu, Sud Kivu.
Abamungu Balibouza, à partir de la ville de Bukavu, il faut d'une manière objective planifier le discours du raïs. Il n'a pas rassuré les Congolais. Son discours n'a même pas apporté une partie de la solution, contrairement à ce qu'attendaient les peuples congolais. Dire que les élections auront cette année n'est pas synonyme qu'elles auront lieu sans le président Kabila. Étant le père de la démocratie congolaise, comme il le proclame souvent, il devait, à mon avis, aller tout droit au but en éclairant l'opinion publique sur son avenir politique sujet de la crise actuelle. Ma grande question est de savoir que perdrait le président de la République démocratique du Congo en annonçant tout simplement qu'il ne sera pas candidat.
Oui, M. John Banza Lunda.
Je crois que notre compatriote doit être rassuré. Que le président de la République a effectivement rassuré les Congolais, les rassuré sur l'urgence et l'importance de l'organisation des élections. Et il parle des Congolais. Effectivement, il a parlé aux Congolais et les Congolais à qui il a parlé sont rassurés. Et je ne sais pas de quels Congolais il parle qui ne sont pas rassurés, si ce ne sont que les fanatiques qui suivent le groupe radicalisé de l'honorable Sesanga et consorts. Sinon, comment comprendre? Lorsque l'honorable Sesanga évoque l'assertion sur le respect de la Constitution, il dit que juridiquement le président est correct, mais politiquement non. Je ne sais pas sur quelle base, sur quel fondement. Il était et juridiquement et politiquement correct. Je ne sais pas, lorsqu'il évoque l'application de l'accord de Saint-Sylvestre à une géométrie variable selon lui, et que cela serait une provocation. Non, pas du tout. Il y a des responsabilités de chaque partie prenante de cet accord. Donc chaque partie a une responsabilité à faire. En ce qui nous concerne, nous devons mobiliser les moyens, les ressources pour arriver à l'organisation des élections. Et cet engagement est ferme et formel et il est en train d'être appliqué. Nous allons tenir cet engagement. Et okay. Les élections seront organisées en décembre 2018. Il n'y aura pas d'autre dialogue, il y aura élection.
Voilà, il y aura élection.
En plus.
Au sujet des rapports que la RDC c'est un entretien avec les partenaires, parlant, n'est-ce pas, de la MONUSCO. Le chef de l'État dit que la MONUSCO n'a éradiqué aucun groupe armé en 20 ans d'existence. Et il y a des experts qui estiment que ça, c'est une façon pour le chef de l'État de remettre en cause le travail abattu par la MONUSCO. Et donc, cela est perçu comme une sorte, n'est-ce pas, d'ingratitude de la part du chef de l'État à l'endroit de la communauté internationale.
Et lorsque ça vient du secrétaire général des Nations Unies, qui pose la question sur l'efficacité de la MONUSCO. Pourquoi on a redimensionné la MONUSCO si elle avait atteint son objectif? Non, pas du tout. Et l'honorable Sesanga, qui s'est fait en même temps porte-parole de la MONUSCO, qui dit qu'il est facile, il est plus aisé d'éradiquer l'insécurité dans les Kassai avec la MONUSCO, qui était incapable de le faire sur l'ensemble de la population du territoire national.
Vous rappelez le M23, vous
le M23, c'est
le CNDP, le M23, tous les groupes armés, récemment les Yakutumba,
les tristement serrés
dans Ouvira, c'est grâce à l'intervention de la MONUSCO que les Yakutumba ont été repoussés.
Vous n'êtes pas en train de dire la vérité, parce que le fameux M23, le tristement célèbre M23 a été vaincu par les forces de la République. Et là aussi, il faut dire à la population, aujourd'hui, il pose la question de savoir où était passé l'argent pour organiser les élections. Il oublie que certains d'entre eux ont participé à ce mouvement insurrectionnel et qui nous a privé des ressources pour organiser les élections. Et il parle, en terminant, il parle de la décrispation concernant la libération des cas emblématiques. Je ne sais pas comment il peut consacrer une discrimination au sein de la population congolaise en donnant des emblèmes spécifiques à certains de leurs partenaires ou sinon de leurs bailleurs. Il y a des obligations. Il y a des obligations pour chaque parti et le CNSA est là pour régler toutes ces questions.
Merci, professeur Geoff Mudimbi. Comment vous avez, n'est-ce pas, analysé les propos du chef de l'État à l'endroit des partenaires extérieurs, notamment de son partenaire qui est ici au pays, la MONUSCO?
Bien, merci beaucoup. Je voudrais rappeler ceci. La sécurisation des frontières nationales n'est pas l'œuvre des partenaires étrangers. C'est d'abord l'œuvre du pouvoir politique. Alors, si réellement il est dit que la MONUSCO n'a éradiqué aucun groupe, bon, nous pouvons aussi nous poser la question de savoir qu'est-ce que le pouvoir public a fait. Parce que c'est à lui que revient la première responsabilité. Moi, je pense que à ce niveau-là, nous ne devons pas minimiser les efforts des uns comme des autres. Il y a des efforts que le gouvernement congolais a pu faire, mais qui ne sont pas suffisants, tout comme aussi il y a des efforts qui ont été menés par la MONUSCO qui ne sont pas suffisants. Donc, il appartient au pouvoir politique congolais de jouer correctement son rôle, et il appartient aussi aux Nations Unies peut-être d'étudier les insuffisances de la MONUSCO, de redéfinir clairement ses missions, et je pense que à ce rythme-là, on peut, tant soit peu, espérer de restaurer la paix, la sécurité, la tranquillité dans ce pays qui est notre héritage.
Professeur Geoff Mudimbi, après cette interview de Joseph Kabila, comment vous entrevoyez la suite du processus politique en RDC?
Je me dis que je reviens encore, les acteurs politiques doivent jouer franc jeu. Parce que ne faisons pas ici la politique de la pentade ou du perdrix. Nous déclarons certaines choses, mais dans l'entretemps, nous sommes en train de faire autre chose. Mais il est souhaitable que chaque acteur politique soit devant sa conscience et de manière à respecter scrupuleusement les textes légaux et réglementaires qui nous régissent. Parce que le respect de ces textes légaux et réglementaires sont une manifestation éloquente de la maturité politique et c'est ce qui peut même favoriser l'instauration d'une culture politique sécularisée en RDC.
Merci.
Capable de conduire ce pays vers son rayonnement.
Merci, professeur Geoff Mudimbi. Je considère ça comme votre conclusion. Honorable Delice Sanga, en conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus politique après ces discours du chef de l'État? Est-ce qu'on peut dire que le bout du tunnel est perceptible?
Non, nous appelons la population à se mobiliser davantage, à continuer à manifester pour exiger l'application intégrale de l'accord qui est la seule voie crédible pour nous conduire aux élections. Ce n'est pas la première fois que le président de la République a promis les élections. Il les a promis les années antérieures. Elles sont jamais venues. Il n'y a pas de raison particulière en dehors de la méthode Coué qui est devenue la méthode du gouvernement aujourd'hui pour faire de l'autosuggestion et considérer que les élections vont avoir lieu. Nous exigeons que la décrispation soit appliquée. nous exigeons que l'espace politique soit libéré, que les dédoublements de partis prennent fin et qu'enfin que le peuple congolais puisse se prononcer. Je ne peux pas me faire le porte-parole ici des Fayulu, comme on a dit tout à l'heure, mais la position du rassemblement est connue, elle est claire. Nous sommes pour la tenue des élections, mais qu'ils soient des élections réellement crédibles et qui s'inscrivent dans l'accord du 31 décembre 2016.
Merci, John Banza. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que l'horizon est clarifié après cette interview du chef de l'État, Joseph Kabila?
L'horizon est clarifié. Nous aurons les élections en 2018, en décembre 2018. Et pour le peuple congolais, il y a un complot contre le Congo. Il y a deux choix. Soit c'est capituler, soit c'est résister. Et nous avons choisi de résister pour le bonheur de notre pays.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polydor Basunga qui est à la technique. Merci à Alain Irung et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision des Pelé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.